Écho de la Grande Guerre, le pays mélois se raconte. Dans le cadre de la programmation commémorative du pays d'art et d'histoire du pays mélois.
Le baptême du feu en Belgique, 22 et 23 août 1914.
Anafovo, après la mobilisation, après le transport par train, vous nous l'avez dit, vers le front, le baptême du feu va être pour votre grand-père, non pas le baptême du feu de votre grand-père, mais en tout cas celui de nombre d'hommes de son régiment, va se faire donc en Belgique. Donc il passe la frontière.
Voilà. Alors il passe la frontière après un petit passage dans la région de Toul. Mais c'est ensuite en direction de Charleroi qui va être envoyé et il va participer à cette bataille de la frontière avec la 5e armée. En fin de compte, son corps d'armée va être envoyé en renfort auprès du général Lanzac qui a été chargé de la mission principale qui consistait à aller détruire les armées allemandes qui avaient envahi la Belgique. Ça va très mal se passer. Voilà comment il raconte le passage de la frontière franco-belge. Le samedi 22 août à 15h50, entre Boussigny-sur-Roc et Sartiaux, la 4e compagnie sortit de France pour pénétrer en Belgique. Aucune ligne nouvelle naturelle ne limitait les deux pays. Nous suivions un bon chemin d'exploitation à travers une terre de blé et de pâturage légèrement ondulée. À la vue du poteau frontière, je fis prendre le pas cadencé à mes hommes et ces larmes sur l'épaule que ma compagnie défila devant moi. Je m'étais arrêté à la limite de la terre de France pour regarder passer la jeune troupe que j'avais charge de mener à la gloire, peut-être, au sacrifice sûrement. En cet instant, mes yeux perçaient les ténèbres de l'avenir et devant la sanglante vision, mon cœur battait plus vite qu'à l'ordinaire. Ma gorge était étranglée par l'émotion. Aussi, j'eus un mouvement de dépit quand je m'aperçus que mon geste n'avait pas été compris. Peiné de l'attitude de mes hommes, je les rassemblai et je leur dis « Je vous ai fait prendre le pas cadencé devant le poteau frontière et mon acte n'a pas été compris par la plupart d'entre vous. Je vous en dois la raison. Nous venons de quitter la patrie et beaucoup d'entre nous ne la reverront jamais parce qu'ils seront tués en Belgique. » En rendant les honneurs comme vous l'avez fait, c'est un adieu suprême que certains ont adressé à la France. Vous n'y avez pas songé à ce moment, mais je suppose que maintenant vous y penserez. Rompez les rangs.
Et comment s'est déroulée la veillée d'armes ?
Alors nous sommes donc en Belgique et bien entendu les combats ont déjà commencé la veille. Je dirais même que le 22 août a été la journée la plus sanglante pour l'armée française, puisque 27 000 hommes ont été tués ce jour-là. Donc ils arrivent en renfort dans une opération qui a déjà commencé et dans une opération qui a mal commencé. Voilà ce qu'il écrit dans son carnet. Le canon tonnait au loin et sa voix profonde semblait un appel de mort, conviant toute la belle jeunesse couchée là autour de moi à la moisson sanglante où l'on fauche des vies humaines. Mes hommes s'étaient tus peu à peu, eux aussi, commençant peut-être à songer au lendemain. Je les aimais mieux comme cela, silencieux, car j'avais encore les oreilles pleines de leurs stupides réflexions lancées au peuple bordelais alors que nous partions pour la guerre. « Je t'apporterai les oreilles de Guillaume, on va lui couper les moustaches » et autres insanités de ce genre dont j'avais été rebattu depuis le 5 août. Je craignais pour ces inconscients le réveil brutal aux sanglantes réalités sous le claquement des balles et l'explosion des obus.
Et justement, après cet ultime repos, répit, comment s'est passé ce premier engagement en Belgique ?
Alors tout de suite après, son régiment va être engagé et il écrit la chose suivante. « À 12 heures, mon régiment recevait l'ordre de partir. » Pour aller où ? Point d'interrogation. Pourquoi faire ? Point d'interrogation. Je ne l'ai jamais su. Le canon faisait rage dans la vallée de la Sambre et l'on voyait nettement les obus éclater. La lisière du bois était repérée par l'artillerie allemande. Les shrapnels, hein, ce sont des munitions qui lâchaient des billes de métal, les shrapnels éclataient à moins de 50 mètres de la lisière. Le débouché se fit cependant très correctement. Je fis sortir mes hommes au pas de gymnastique afin de leur faire franchir rapidement la zone battue et je continuai à m'avancer sur un plateau dénudé, large d'environ 800 mètres. L'artillerie nous accompagnait de ses projectiles. Ceux-ci éclataient trop tôt et malgré le miaulement de chats en colère des obus, le sifflement des balles, la marche se fit dans des conditions heureuses puisque je ne perdis aucun homme. À chaque arrêt entre les bonds, mes hommes se couchaient comme nous leur avions appris à le faire. Moi, je restais debout car si j'avais le devoir de conserver ma vie pour diriger ma troupe, j'avais le devoir plus impérieux encore de m'imposer à elle par mon attitude pour avoir le droit de la commander. Je voulais être le chef de mes hommes et pour le devenir, il me fallait autre chose que les trois modestes galons qui barraient les manches de ma vareuse. Vers 17h, je venais à peine de rejoindre ma section de réserve dans le chemin quand un ouragan de feu, de fer et de fumée se déchaîna sur nous. En un clin d'œil, nous fûmes couverts par des débris de toutes sortes, terre, feuilles, branches brisées. Mes hommes éperdus, allongés contre la terre, jetaient sur moi des regards terrifiés et semblaient demander grâce. La section qui était en action, démoralisée par ce feu qui venait de l'arrière, commençait à lâcher pied. Je me précipitais pour la ramener au devoir et me trouvais soudain devant un spectacle affreux. Mon ami, le capitaine Tomiré, gisait en travers du sentier, décapité par un obus. Cédillo, son lieutenant, était tombé sur son cadavre et râlait, atteint d'une horrible blessure au crâne. Ce sont deux officiers du 144. La situation devenait intenable. La troisième compagnie commençait à lâcher prise car les blessés légers, les fuyards défilaient devant nous. Je reçus l'ordre de nous replier. Il était temps. On entendait dans le fond de la vallée des appels de clairons et le bruit sourd et caractéristique d'une nombreuse troupe en armes. Le flot montait. Vers 20h, quand j'arrivais sur le plateau qui s'étend au sud de l'Aube, tout n'était que confusion. La deuxième compagnie, privée de ses chefs, ne formait plus que des groupes épars. Les hommes apeurés ne se cachaient derrière les tas de gerbes d'avoine alignés dans la campagne. La nuit commençait à tomber, la trompette allemande sonnait dans les bois des appels brefs, la fusillade redoublait. Grâce à l'initiative de quelques officiers, plusieurs groupes de tireurs répondaient énergiquement au feu adverse, mais nous étions tellement près de la ligne ennemie que nous ne pouvions nous décrocher sans risquer de grosses pertes. Restait la solution la plus hardie en apparence, peut-être la plus sûre, refouler les Allemands par une charge à la baïonnette et s'en aller après. Je discutais la chose avec le commandant Petit-Jean Roger, quand une salve d'artillerie allemande trop longue fit éclater 6 obus derrière nos hommes qui se portèrent d'eux-mêmes en avant. Il fallait profiter de ce mouvement. Le cri de « en avant » retentit partout. J'avais avec moi toute ma compagnie et peut-être 100 hommes de la deuxième compagnie qui étaient venus me rejoindre, sans doute parce qu'ils savaient mon affection pour leur capitaine. Je me plaçais à la tête de cette masse de 300 hommes, bien articulés en ligne de section par 4 à court intervalle et en quelques bonds, je rejoignis la chaîne de tirailleurs qui fusillait avec rage la lisière de bois distante de 100 mètres à peine. La baïonnette est mise au canon. Je suis devancé par les hommes de la deuxième compagnie qui se précipitent au cri de « Vengeant notre capitaine ». Le cri spontané me fait monter les larmes aux yeux et nous partons en trombe vers le bois d'où pétille la fusillade. Je n'avais jusqu'alors comme unique arme que ma cravache de jonc, mais je ne suis pas le héros d'Alfred de Vigny. Je n'ai pas fait le vœu de ne charger que la canne à la main. Le caporal Paillet de ma compagnie roule entre mes jambes, la tête fracassée. Je saisis son fusil et la baïonnette haute. Je bondis dans le bois que les Allemands avaient lâché après y avoir subi de cruelles pertes, si j'en juge par le nombre de cadavres que je dus enjamber. Nous n'avions pas fait 5 mètres dans le bois que nous nous trouvons en face d'une 20aine d'Allemands. Je devais avoir la figure bien mauvaise et le malheureux qui était devant moi dut lire sa mort dans mon regard car il n'osa attendre le choc et déchargea sur moi son fusil à bout portant, me manqua et fit demi-tour pour se sauver. D'un furieux coup de baïonnette lancé en dessous de son sac, je l'exécutais et comme j'avais assez fait le soldat, je ralliais mes hommes et allais rassembler ma compagnie bien désunie mais toute vibrante de cette charge qui devait nous permettre de quitter le champ de bataille, l'arme à la bretelle.
Alain Fauveau, dans ce récit de ce premier combat, on voit déjà plusieurs choses. Tout d'abord, l'importance qui viendra véritablement prédominante des moyens techniques, notamment d'artillerie, dans ce premier conflit mondial. Tout cela était déjà en germe et les officiers allemands, eux, l'avaient déjà bien vu au moment de la guerre civile américaine. Votre grand-père, quand on lit ces textes, est un homme qui est très clair sur le fait qu'une partie des hommes qu'il est amené à mener va vers la mort. Votre grand-père est conscient que le feu tue, oui, véritablement.
Oui, je dirais même qu'il avait quitté la Légion étrangère parce qu'il savait que c'était en Europe que les choses importantes allaient se passer. Et il considérait que, de son expérience au Tonkin, il considérait que c'était pas une véritable guerre et que c'était pas comme ça qu'il se préparerait à être un commandant de compagnie digne de ce nom dans la grande guerre qui se préparait entre la France et l'Allemagne. Il faut bien voir aussi une chose, c'est que en France, on misait sur le fusil alors que les Allemands misaient sur les mitrailleuses et les canons. Le canon de 75 était l'arme, le canon français, alors que les Allemands avaient des canons de 105, de 120, de 340, etc. etc. Le canon de 75 était utilisé en tir direct, et quand il parle du capitaine Thomiré qui a été tué quasiment sous ses yeux, il faut savoir que le capitaine Thomiré a été tué par un obus français et non pas par un obus allemand. Hein. Et les Allemands étaient beaucoup plus forts en artillerie que nous-mêmes, et il va falloir faire beaucoup de progrès pour pouvoir lutter contre l'artillerie allemande.
Mais c'est vraiment dès ces premières semaines de la guerre, on voit bien dans la confrontation entre les deux armées aussi une confrontation entre deux stratégies.
Deux stratégies
complètement différentes. Deux visions de la guerre.
Exactement.
Et qui va après s'enliser donc devant dans cette confrontation de face à face de la guerre des tranchées. Quels sont les bilans, les enseignements que votre grand-père tire de cette journée de combat ?
Oui, une petite chose avant de répondre à votre question. Il faut bien voir que en France, on misait tout sur la baïonnette. Hein. Or, il y aura peu de combats à la baïonnette. Il y a peu de récits sur des combats à la baïonnette, et finalement les Français ont rarement eu l'occasion d'arriver au contact des Allemands. Là, vous en avez un exemple, c'est assez impressionnant de voir comment les choses se sont passées. Alors, quels sont les bilans, les enseignements de cette journée de combat ? Le soir, donc on est le 23 août au soir, la nuit était venue, Thuin se trouve dans la banlieue de Charleroi, Thuin et l'Aube flambaient. Les maisons dans lesquelles nous avions placé nos blessés au cours de la bataille brûlaient comme des torches, et la lueur sinistre de ces incendies teignait de pourpre cette plaine où nous laissions tant des nôtres. Les ordres pour la retraite furent aussi confus que ceux donnés pour l'attaque. Vers 22h30, mes hommes étaient silencieux. La fatigue et l'émotion avaient eu raison cette fois de la blague méridionale, mais la troupe était bien en main et défila en ordre devant le général qui m'indiqua le fossé de la route comme emplacement de bivouac. L'excitation de la lutte avait disparu, laissant place en moi une immense fatigue et une profonde tristesse. Assis au bord du chemin, non loin des blessés qui gémissaient sur leurs brancards, je revivais avec une intensité maladive les phases de cette terrible journée. Je frémis d'horreur. Quand le médecin s'étant approché de moi avec une lanterne, je m'aperçus que j'avais les mains rouges du sang du malheureux dont j'avais pris le fusil au moment de la charge. Au nord, tous les villages brûlaient, mais le silence s'était fait sur la morne plaine, et après une dernière ronde auprès de mes hommes qui dormaient le fusil à la main dans le fossé de la route, je m'allongeais sur l'herbe humide de rosée. Dimanche, jour de repos, jour du Seigneur, tu as été pour nous jour de rude labeur, jour de sang et jour de deuil. J'avais rêvé le baptême du feu dans l'apothéose de la victoire. Je n'eus pas cette joie, mais j'ai eu au moins la consolation de voir l'Allemand reculer devant la menace de nos baïonnettes et de ramener ma compagnie en ordre. Nous n'avons pas été des guerriers heureux, mais nous avons fait ce que nous avons pu, et la terre de Belgique a bu à longs traits le sang de mes hommes, car la 4e compagnie a laissé sur le bord de la Sambre 1/5 de son effectif. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, en Belgique, il y a eu une grande manifestation, justement à l'aube, pour commémorer, 100 ans après, ces combats qui ont eu lieu entre le 144 et les Allemands au bord de la Sambre. Et cette manifestation a été un moment très fort, justement, pour les Belges.
Merci Alain Fauveau.